Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, aujourd'hui 20e épisode, le cardinal Charles Martial Lavigerie, 1825-1892.
Dans la vie de l'Église, il n'y a pas de siècle qui n'ait été missionnaire. Le christianisme est universel par essence. Aucune autre religion ne peut lui être comparée sous ce rapport. Docete omnes gentes. La consigne du Christ est formelle. Il n'empêche que le 19e siècle, comme les tout premiers, comme le 16e, comme le 17e, est un grand siècle missionnaire qui a vu se multiplier les œuvres et les sociétés missionnaires, grossir considérablement le nombre des hommes et des femmes dévoués à la mission et la cause des missions recueillir dans la masse du peuple chrétien adhésion fervente et enthousiaste admiration. Le héros chrétien par excellence, comme le martyr ou le solitaire ou le croisé ou les abbés Pierre en d'autres temps, c'est le missionnaire. Au début du siècle, pourtant, la mission catholique était tombée très bas. Il n'y avait plus, en 1820, chez les infidèles, que 250 missionnaires, à côté de 270 prêtres autochtones. Chiffre dérisoire, terrible déclin, qui s'explique par une suite de facteurs contraires. Les progrès du protestantisme, les attaques de Voltaire et des encyclopédistes, la tourmente révolutionnaire et la persécution que l'Église connaît alors, les guerres napoléoniennes et le blocus européen qui en résulte, la dissolution de la Société de Jésus, l'Église se débat au milieu des pires difficultés et l'essor missionnaire se trouve empêché. Au fil des années, la situation va changer du tout au tout. En Amérique du Nord, l'émigration massive d'Irlandais et d'Italiens fera la fortune du catholicisme. Ailleurs, l'expansion coloniale des puissances européennes, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et surtout l'Angleterre et la France, va favoriser considérablement le progrès des missions. Si la France devait être, au cours du XIXe siècle, la première nation missionnaire, plus d'un missionnaire catholique sur deux sera français. L'apport de certaines de nos provinces, comme la Bretagne, l'Alsace, le Rouergue, le Pays Basque, est extraordinaire. Donc si la France devait être la première nation missionnaire, c'était aussi parce qu'elle était la nation qui plantait son drapeau en Algérie, en Tunisie, au Sahara, en Afrique occidentale et équatoriale, à Madagascar, à Djibouti, en Cochinchine, au Tonkin, en Océanie. Cette expansion coloniale alla de pair avec une politique de prestige de l'Occident pour affirmer leur suprématie ou pour donner des marchés à leurs commerçants. Les grandes puissances ouvrirent par la force des pays comme la Chine, le Japon, l'Indochine, que la xénophobie leur avait fermé. Là, comme dans les colonies, les missionnaires précédèrent, ou plus souvent accompagnèrent ou suivirent, les découvreurs et les conquérants. Pour l'avenir, cela poserait de graves problèmes. Dans l'immédiat, c'était un atout. De ces circonstances favorables, l'Église profita avec une ardeur dont témoignent en particulier les fondations et les œuvres missionnaires qui virent le jour au cours de ce siècle. Il serait évidemment trop long de tout analyser ou même de tout citer, et si nous nous proposons de nous arrêter à la figure et à l'œuvre de Charles Lavigerie, c'est précisément comme à un exemple, un témoin et acteur privilégié de la grande épopée missionnaire du siècle. Nous noterons seulement quelques-uns les plus importants de ces congrégations et instituts nouveaux qui se lancent dans l'arène aux côtés des grands ordres à l'actif déjà considérable, les franciscains, les jésuites, les lazaristes, les missions étrangères de Paris. Voici, dès 1802, les Picpusiens du père Gondrin. En 1817, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, de la mère Nanette Javouet. En 1807 encore, les Marianistes fondés à Bordeaux par le père Chaminade. En 1822, les Maristes de Belley, du vénérable Collin. En 1826, les Oblats de Marie Immaculée, de Monseigneur Eugène de Mazenod. En 1845, les Assomptionnistes, du père d'Alzon. En 1841, les Salésiens de Saint-Jean Bosco. En 1854, les missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun, du père Chevalier. En 1841 encore, les Spiritains, du juif converti Jacob Liebermann. En 1856, les missions africaines de Lyon que fondent Monseigneur de Marion Brésillac et l'abbé Augustin Planck. En 1856, la même année, les missions étrangères de Vérone. En 1849, les Claretins. En 1862, les Chotistes. En 1855, les Dames de Sion. En 1868, les Pères Blancs, dont nous reparlerons. Etc., etc. Car, en ce siècle si fertile en fondations religieuses, si certains instituts sont strictement missionnaires, beaucoup d'autres réservent aux missions lointaines une part de leurs efforts et de leurs sujets. C'est le cas chez nous des pères du Sacré-Cœur de Bétharram, des filles de la Croix et des servantes de Marie. Et il faudrait encore parler de ces œuvres qui répandirent dans le peuple chrétien le souci de collaborer au travail des missionnaires, de les aider, de prier pour les missions. Nous nous bornerons à citer l'œuvre de la propagation de la foi, lancée à Lyon par Pauline Géricault, servie par un périodique à gros tirage, les Annales de la propagation de la foi. L'œuvre de la Sainte Enfance, qui soutient l'apostolat des enfants auprès des enfants des peuples infidèles. L'œuvre des écoles d'Orient, devenue l'œuvre d'Orient, que Lavigerie lança de main de maître. Et nous pourrions citer leurs homologues d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Italie. Bref, le 19e est certainement un grand siècle missionnaire. Il importait de le souligner, me semble-t-il, avant d'aborder celui qui en est un des plus illustres, sinon le plus illustre représentant, cet homme de chez nous, Charles Lavigerie, dont Daniel Rops a dit qu'il était de la race des bâtisseurs d'empires ou d'églises, et que Francis James définissait comme un cactus de pourpre et d'or. Charles Martial Allemand Lavigerie, c'est le nom complet de notre héros. Naquit le 31 octobre 1825 dans la commune alors encore indépendante hollandaise de Saint-Esprit, sur la rive droite de l'Adour, au lieu dit de Huire, dans une propriété familiale qui est aujourd'hui une maison de retraite des sœurs de Notre-Dame d'Afrique. Son père, Léon Philippe, était contrôleur des douanes. Sa mère, Louise Laure Latrille, était la fille du directeur de l'Hôtel de la Monnaie de Bayonne. Leurs ascendants étaient soit Charentais du côté du père, soit Béarnais du côté de la mère. Des quatre enfants, Charles est l'aîné. De ses deux frères, l'un, Léon, sera médecin, l'autre, Félix, officier. La sœur, Louise, se mariera avec un certain Kiner, inspecteur des chemins de fer. Elle gardera des relations suivies avec Charles. La famille, de tradition libérale, honnêtement bourgeoise, n'était pas particulièrement dévote. Le futur cardinal reçut sa première éducation religieuse des deux servantes de la maison, qui lui apprirent les prières et le catéchisme et lui racontaient l'Évangile. Elles s'appelaient Marianne et Jeannette. Un jour, du haut de la chaire, dans la cathédrale de Bayonne, la Vigerie leur rendra publiquement hommage. Leur vie, à la fois simple et digne, a-t-on écrit, c'est François Renaud, l'auteur d'un excellent livre, le dernier en date parmi les œuvres principales consacrées à la Vigerie. Leur vie, donc, disait François Renaud, donnait à leurs paroles cette force pénétrante à laquelle l'esprit d'un enfant est particulièrement sensible. Charles fréquenta à Bayonne, près de la cathédrale, cette école Saint-Léon dirigée par l'abbé d'Arguignaratz, où nous avons déjà vu les jeunes Gericoïtz et Sestac. Ses aptitudes intellectuelles étaient déjà éclatantes. Avec cela, il était turbulent et batailleur, ce qui ne l'empêchait pas de jouer à célébrer toutes sortes d'offices liturgiques auxquels ses frères, sa sœur, les domestiques et sa grand-mère étaient obligés d'assister et de s'y tenir avec sérieux. Dans la rue, il convertissait les enfants juifs en les traînant jusqu'à la fontaine où il les baptisait de force. Plus tard, il restera ce jeune homme plein de gaieté dont parle le père Cussac, mais toujours un peu despotique, cherchant à faire oublier la violence de son caractère par des égards et des séductions qui lui conquièrent les sympathies. À 11 ans, il fit sa première communion, admirablement préparée par l'aumônier de Saint-Léon, Fulgence Francis Tegui, dont le rôle sera très important plus tard dans le diocèse, lorsqu'il sera vicaire général. À partir de ce moment, Charles s'arrêta à l'idée d'être prêtre. Et en 1840, malgré leur déception, ses parents le firent entrer au petit séminaire de la Ressort. L'année d'après, ses maîtres ne voulaient plus de lui. On ne sait pas très certainement pourquoi. Peut-être parce que ses parents, malgré leur situation suffisamment aisée, laissaient sa pension à la charge du diocèse de Bayonne. Peut-être parce qu'étant de Saint-Esprit, il appartenait à un autre diocèse, celui d'Aire et de Dax. Peut-être parce que son père, fonctionnaire des douanes, allait recevoir une autre affectation. Il quitterait effectivement bientôt la région pour Marseille. Peut-être à cause de son indiscipline. La Vigerie lui-même n'a-t-il pas dit une fois « Dire que si je n'avais pas jeté mon archer à la figure de mon professeur de violon, j'aurais moisi toute ma vie dans le diocèse de Bayonne. » Renvoyé donc de la Ressort, ou si l'on préfère, non réadmis, en 1841, il connaît une des chances de sa vie. Grâce à la recommandation du très distingué chanoine d'Assens, du Staritz, professeur à la Sorbonne, il est admis au petit séminaire parisien de Saint-Nicolas de Chardonnay que dirige admirablement Dupanloup, le futur évêque d'Orléans, une des grandes figures de l'Église de France au XIXe siècle. Malgré une acclimatation difficile, Charles brille là d'un vif éclat, comme il fera au Grand Séminaire, à Issy-les-Moulineaux, puis à Saint-Sulpice. Il se lie avec des hommes éminents, comme le père de Ravignan, son compatriote bayonnais, ou Monseigneur Marais, ou l'abbé Baudry. Ordonné prêtre en 1849, licencié S-lettres, puis docteur S-lettres et docteur en théologie, après avoir soutenu de remarquables travaux sur l'Église des premiers siècles, il est nommé professeur de théologie à la Sorbonne. Il en est là lorsque les affaires d'Orient vont le tirer d'un anonymat relatif pour lui donner une large notoriété. On lui avait demandé en 1856, il avait 31 ans, d'assumer la direction de l'œuvre des écoles d'Orient, nouvellement créée afin de soutenir les congrégations religieuses établies dans l'Empire ottoman, principalement les lazaristes, les jésuites et les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Son activité avait fait merveille. Il parcourt les diocèses, prêche dans les cathédrales, lance un bulletin, installe des comités de soutien, se fait encourager publiquement par le pape, les recettes quadruplent. Toujours il aura le talent de réunir des fonds considérables. C'est un merveilleux frère quêteur, ou si l'on préfère, un remarquable procureur. Mais en mai et juin 1860, il s'agit de bien autre chose. Au Liban et en Syrie, les musulmans druzes et mutawalis, avec la complicité des autorités turques, se jettent sur les chrétiens maronites. 22 000 d'entre eux sont tués, leur village brûlé, les autres s'enfuient éperdus. L'Europe s'indigne. Le gouvernement de Napoléon III envoie sur les lieux un corps expéditionnaire pour rétablir l'ordre et rassurer les populations chrétiennes. Quant à la viguerie, il redouble d'activité et recueille 3 millions de francs or, soit 75 millions de nos francs, 7 milliards et demi de centimes. Et d'octobre à décembre, il les distribue lui-même à Beyrouth, à Saïda, à Sousse, à Acre, dans la montagne libanaise. Il installe des comités, crée des dispensaires, fonde des orphelinats. Admirable travail dont témoigneront les évêques de toutes les églises de la région lorsque, comme il passait par Rome à son retour, le pape lui aura reproché sa trop étroite collusion avec le gouvernement français. Le recevant en audience, Pie IX le fit attendre 5h30 et le congédia au bout de 2 minutes. Passagère déconvenue, la viguerie était devenue un personnage, presque un héros. Lui-même vit alors s'ouvrir des horizons jusque-là insoupçonnés. C'était l'appel du large, ou comme il disait, son chemin de Damas. Au début de 1861, il était en France, singulièrement grandi par tout l'éclat qui s'attachait à son voyage et le prestige qu'il s'était acquis. Les ministres le reçurent et l'écoutèrent avec faveur, et ils s'étonnèrent de trouver en cet ecclésiastique un véritable homme politique, s'expliquant avec clarté sur les problèmes les plus complexes et définissant nettement la conduite à suivre. Toujours la viguerie, qui liera amitié avec Jules Simon, avec Jules Ferry, avec Gambetta, sera à l'aise parmi les politiques. Il est l'un d'eux. Quelques années, son destin hésite. On lui propose le siège épiscopal de Vannes, quand il n'a que 35 ans. C'est le choix du gouvernement qui, à cette époque concordataire, fait les nominations. Encore faut-il que Rome les entérine. La viguerie refuse, craignant que Rome ne s'oppose à la nomination de quelqu'un qui passe pour gallican et libéral. De fait, il n'est partisan ni du pouvoir temporel des papes, ni de la définition de leur infaillibilité. Il critique la centralisation excessive du pouvoir dans l'Église, aussi bien que la mainmise à peu près exclusive des Italiens sur la curie. Pourtant, il accepte un poste d'auditeur de la rote. On le pourvoit rapidement d'un doctorat in utroque iure, Et le voilà à Rome, juriste quelquefois, surtout diplomate, intriguant dans les couloirs, l'oreille aux aguets, en correspondance suivie avec les ministères français des affaires étrangères et des cultes. Il exerce une telle séduction qu'il gagne l'amitié du pape. Sa verve méridionale, raconte François Renaud, fit merveille au cours de fréquents entretiens avec Pie IX. Et après quelques mois de séjour à Rome, il pouvait écrire à son ami Bourré, un futur cardinal lui aussi, « Aujourd'hui, je suis accepté, très bien vu, et même très aimé du Saint-Père, avec lequel je dis plus de bêtises que nous n'en avons jamais dites ensemble. » Le pape est bon, au-delà de toute expression, mais il est maladif et il a besoin d'être distrait. Toutes les fois que je vais le voir, je fais double provision de bonne humeur. Je lui raconte des histoires de curés normands, d'évêques orientaux. Il en rit aux larmes et nous sommes les meilleurs amis du monde. La Vigerie se lassa pourtant vite de son auditorat romain. L'homme était impatient, conscient de ses capacités, il postula bientôt un évêché. On le nomma au siège de Nancy, que quittait Monseigneur Darbois, transféré à Paris, où, 7 ans plus tard, devaient le fusiller les communards. Le 22 mars 1863, la Vigerie recevait l'ordination épiscopale à Rome, à Saint-Louis des Français. Il avait 37 ans. À Nancy, important diocèse de 425 000 habitants et aux 830 prêtres, de forte tradition chrétienne, la Vigerie fut ce qu'il était et serait toujours, entreprenant et autoritaire. Il s'employa avec vigueur à tout ce qui fait l'office d'un évêque. Peut-être faut-il mettre en relief les 100 chantiers qu'il ouvrit pour construire ou réparer des églises, la magnificence, la pompe des cérémonies qu'il célébrait dans sa cathédrale, il adorait cet éclat. Le souci qu'il avait de relever le niveau de savoir et de culture, soit des prêtres et des séminaristes de son diocèse, il voulait, disait-il, un clergé doctoral, soit encore des religieuses enseignantes dont beaucoup lui paraissaient être d'une ignorance lamentable. Comme tous ses collègues dans l'épiscopat, dit François Renaud, il entendait bien être le seul chef dans le diocèse, et son tempérament personnel accentuait encore cette disposition. Passionné, totalement consacré à sa tâche, voulant atteindre un but et appliquer son programme, il exigeait de tous un engagement dans la ligne indiquée sans attendre le changement des esprits. N'acceptant pas d'être contrarié dans l'exécution de ses plans, il multiplia les mesures disciplinaires contre ceux qui paraissaient s'y opposer. Censures ecclésiastiques, déplacements subis d'une paroisse à l'autre, sentences prononcées sans remise de jugement à l'officialité diocésaine. Dans son ardeur, il se laissa emporter à des réactions très dures. Le clergé lorrain se sentit malmené par ce méridional trop vif. Une fraction reconnut le bien fondé de ses réformes, mais la majorité lui fut contraire. Discuté par son clergé, la Vigerie était par contre extrêmement appréciée par le gouvernement de Napoléon III. Mais comme il était soupçonné de ne pas soutenir les intérêts du pape, alors si menacé, il déclina l'offre d'être coadjuteur à Lyon avec la perspective d'une proche succession et accepta le siège d'Alger, confit métropolitain pour la circonstance, avec 2 suffragants, l'un à Oran, l'autre à Constantine. La proposition lui en avait été faite d'abord par le maréchal MacMahon, alors gouverneur de la colonie. Ainsi se confirmait sa vocation missionnaire. Le soir d'un pèlerinage à Tours, Le 11 novembre 1866, il s'était vu en rêve, entouré d'hommes à la peau foncée qui lui lançaient le même appel que le Macédonien à Saint-Paul, « Passe la mer, viens à notre secours ». La Vigerie débarqua à Alger le 15 mai 1867. Il avait 42 ans. Les mois qui suivent sont les plus importants de sa vie, ceux des orientations décisives et ceux de ses principales fondations. L'Algérie avait alors 3 millions d'habitants, parmi lesquels 218 000 Européens. L'Église y comptait 187 paroisses, 273 prêtres séculiers, 54 religieux prêtres, 70 frères et 800 religieuses. L'archevêque y arrivait avec énormément d'idées et d'immenses ambitions. Son projet était de ressusciter l'Afrique chrétienne, celle de Cyprien et d'Augustin, de faire de ce pays anarchique et misérable une autre France, grâce à une foi, une culture et une prospérité nouvelles. Cela grâce à des apôtres qui tireraient l'Afrique de la barbarie, comme les moines défricheurs et bâtisseurs avaient jadis civilisé l'Europe. Immédiatement, il se mit à ouvrir des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, à construire des églises, et très vite, il se heurta au veto des autorités françaises. Même soumise à l'armée de la France, même ouverte à la colonisation, l'Algérie, selon la doctrine du gouvernement, restait un royaume arabe, un fief de l'islam. Toute entreprise missionnaire, même discrète, près des musulmans, provoquerait le fanatisme et entraînerait des désastres. L'empereur lui-même dira à la Vigerie, au cours de leur entrevue de Biarritz, « Vous avez une grande tâche à remplir, celle de moraliser les 200 000 colons catholiques qui sont en Algérie. Quant aux Arabes, laissez au gouverneur général le soin de les discipliner et de les habituer à notre domination. » L'archevêque ne l'entendait pas de cette oreille. « Ce que je réclame, sire, dit-il, c'est la liberté de faire mon devoir. Si par impossible votre gouvernement ne me la donne pas, il faudra bien que je la prenne. » Comme on voit, la Vigerie ne manquait pas d'audace. Il n'en avait pas moins avec Pie IX, de qui il réclama et obtint une délégation apostolique pour le Sahara et le Soudan, soit une superficie supérieure à celle de l'Europe. Car il envisageait de convertir non seulement l'Algérie, mais l'Afrique noire. « Je ne puis m'empêcher, disait-il, de considérer toujours nos colonies d'Algérie et du Sénégal comme deux grandes portes que la miséricorde divine a ouvertes pour tant de peuples à la charité et à la vérité catholique. » Dans l'immédiat, l'archevêque d'Alger avait à combattre de terribles fléaux. Une affreuse famine consécutive à de très mauvaises récoltes, à quoi s'ajoutèrent d'effroyables épidémies de choléra et de typhus. Les victimes se comptèrent par dizaines de milliers, 90 000 selon certaines estimations, pour les 8 mois allant d'octobre 1867 à juin 1868. La Vigerie alerta l'Europe entière. Prenant son bâton, il alla à nouveau prêcher de cathédrale en cathédrale, à la colère des autorités françaises qui auraient souhaité qu'on fît le blackout sur leurs incapacités. Mais ce terrible homme, rien ne l'arrêtait. Il mobilisait les bonnes volontés avec un ascendant incroyable. Il avait recueilli 1753 orphelins, il lui fallait du monde, des religieux, des religieuses et de l'argent pour s'en occuper. C'est au milieu de tous ces soucis que, non content de mobiliser les religieux d'autres congrégations, il entreprit de fonder les siennes. Ce ne fut pas sans tâtonnement, sans abandon de projets antérieurs, sans reprise, L'homme avait sans cesse 1000 idées qui se bousculaient dans son esprit, et c'était un impatient. Dès lors, il lui arrivait de se décourager, de jeter le manche après la cognée. Puis il se reprenait, il repartait pour de nouvelles tâches. Mais il donne parfois le sentiment de manquer d'ordre et de continuité, alors que les buts qu'il poursuit sont extraordinairement larges et élevés. Au milieu de l'année 1869, il était arrivé à envisager la création de 3 instituts différents. Celui des missionnaires, composé de prêtres, et 2 à vocation agricole et hospitalière, formés respectivement de frères et de sœurs, qu'il mettait l'un et l'autre sous l'égide d'un martyr local du XVIe siècle, le vénérable Géronimo. De ces 3 instituts, le premier à prendre une forme durable fut la Société des missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, qu'on appellera communément les Pères Blancs. Parmi les tout premiers de ses membres comptent 2 des plus précieux auxiliaires de la Vigerie, Félix Charmetan et Francisque de Guéry. Dès 1868, des règles sommaires et provisoires furent établies. Chacun devait s'efforcer de se faire arabe avec les Arabes, coucher sur la dure, manger la nourriture indigène, parler la langue du pays, condition sine qua non pour être ordonné, entendez le fondateur. Dans les débuts, l'ordre nouveau semblait vouloir s'inspirer de l'imitation des moines missionnaires du Moyen-Âge, colonisant, défrichant et évangélisant. L'expérience acquise supprima plus tard cet aspect particulier et les Pères Blancs garderont dans leurs règles et dans leur vie le souci d'une vie intérieure profonde, d'une intense et sérieuse piété, mais sans cet aspect monastique envisagé au début. De même qu'ils imitaient le genre de vie des indigènes, les missionnaires devaient prendre leur habit, se confondant autant que possible avec eux. Gandoura et burnous blanc, chéchia rouge, et autour du cou, le chapelet musulman transformé en rosaire. Le 10 mai 1869, la Vigerie adressa aux supérieurs des séminaires de France une lettre leur demandant des sujets pour son séminaire missionnaire d'Elbiar. Il lui fallait, écrivait-il, des hommes animés de l'esprit apostolique, de courage, de foi, d'abnégation. Des hommes qui viennent se joindre aux ouvriers de la première heure. Je n'ai à leur promettre la vérité que la pauvreté et la souffrance. Tous les hasards de pays presque inconnus et jusqu'ici inaccessibles. Et peut-être au bout de tout cela, une mort de martyr. Mais vous le dirai-je, c'est précisément ce qui m'inspire la confiance que mon appel sera entendu. Au début de décembre 1869, quand l'archevêque quitta Alger pour Rome, où allait s'ouvrir le premier concile du Vatican, les grandes lignes de l'action et de la personnalité de Charles Lavigerie étaient déjà nettement dessinées. Et pourtant, bien des événements, bien des initiatives, bien des efforts vont encore marquer son existence. Indiquant sommairement les principaux. Le Concile du Vatican, où il se montre un fidèle du pape, l'expérience algéroise l'a changé. Il sait que l'apostolat missionnaire a besoin de l'appui de celui qui incarne l'unité de l'Église catholique. 1870 et 1871, pour lui, comme pour bien d'autres, furent des années terribles. La France écrasé par la Prusse, les troupes de Victor Emmanuel s'emparant de la ville éternelle, quelle souffrance indicible pour ce grand Français, pour ce serviteur insigne de l'Église. Il faut y ajouter des soulèvements en Algérie qu'il fallut à l'armée plusieurs mois pour réprimer, et surtout la disette extrême qui s'abattit sur les orphelinats que les événements privaient de leurs ressources. Devant ses enfants en proie de nouveau à la famine dont il avait voulu les sauver, la Vigerie connut des heures de profond découragement. Mais il se reprit. Et les temps devenus plus favorables, il fonça. Principalement dans quatre directions où il entraîna les siens. D'une part, l'Algérie et le Sahara. Ce sont les villages des orphelins et des orphelines, mariés entre eux, qu'ils fondent dans les atafs. Ils sont convertis pour la plupart, et leurs enfants baptisés. Ce sont les établissements de Kabylie. Ce sont les tentatives de traverser le désert et de gagner Tombouctou, et les premiers martyrs en décembre 1875. Les pères Pommier, Ménoré et Bouchon, massacrés par des Touaregs, comme le seront 6 ans plus tard, les pères Richard, Morat et Pouplard. Ensuite, la région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique équatoriale, le Tanganyika, le Congo, l'Ouganda, extraordinaire épopée missionnaire qui va donner des fruits merveilleux, mais dont les débuts exigent de lourds sacrifices. Au cours des 8 premières années, 11 pères blancs périssent de mort violente et 27 autres sont victimes de la fatigue ou du climat. Et c'est sous les yeux des pères Lourdel et Livinac que Charles Louanga et les autres pages du roi Mwanga écrivent en 1886 une des plus belles pages de l'histoire de l'Église. Elle est célébrée chaque année le 3 juin par l'Église universelle. C'est celle des martyrs de l'Ouganda. Autre direction, les lieux saints. La Vigerie n'oubliait pas ce Moyen-Orient pour lequel il avait si bien travaillé. Une intervention du gouvernement français lui fait attribuer Sainte-Anne de Jérusalem, qu'il regarde comme le sanctuaire de la Sainte Vierge, le plus illustre de l'univers, puisque c'est le lieu même de sa conception immaculée et de sa naissance. Non content de restaurer admirablement la basilique, il multiplie les fondations en Palestine, écoles, collèges et surtout en séminaires pour les églises de rite grec qui formera une quantité considérable de prêtres grecs melkites et la moitié de leurs évêques. Enfin, la Tunisie, où à l'heure où la France étend son protectorat sur le territoire, sonne l'heure des plus spectaculaires triomphes de la Vigerie. La chapelle Saint-Louis, la cathédrale de Tunis, et surtout Carthage, l'antique métropole de Saint-Cyprien, qui redevient siège primatial pour la plus grande gloire de Dieu, sans doute, mais également de Charles la Vigerie, qui, tout en restant archevêque d'Alger, et délégué apostolique pour le Sahara, le Soudan et l'Afrique équatoriale, devient archevêque de Carthage, primat d'Afrique et cardinal. Ce sont des occasions de fêtes magnifiques. Ainsi, lorsque le cardinal revient de Carthage à Tunis, à son arrivée à la gare, il est aussitôt entouré et acclamé, on dételle les chevaux et on traîne la voiture jusqu'à la cathédrale, où il est entouré de telles ovations qu'il peut à peine prononcer quelques mots. Le soir, toute la ville est illuminée. En 1888 et 1889, la gloire de la Vigerie s'éleva encore de quelques degrés. Alerté par ces missionnaires des Grands Lacs, de la traite d'esclaves qui se pratiquait en Afrique noire, sur une très grande échelle, on parlait de 10 millions d'esclaves, de 400 000 victimes par an. Le cardinal se lança dans une campagne anti-esclavagiste d'une extraordinaire ampleur et d'une grande efficacité. Il parla dans plusieurs capitales européennes, fonda et inspira de nombreux comités, entraînant les gouvernements, les pays les plus puissants du monde à prendre les mesures nécessaires pour réduire considérablement ce terrible fléau. Ses travaux et ses succès n'allaient pas sans fatigue. Et comme il avait fait précédemment, le cardinal vint se reposer quelques semaines à Cambo. Depuis plusieurs années, sa santé était mauvaise. Ces derniers mois allaient être assombris par de dures épreuves. Par sa mauvaise santé, nous l'avons dit, par l'échec de sa tentative de fonder pour ses missions un ordre de religieux soldats, à la manière des ordres militaires du temps des croisades, les gouvernements des nations européennes s'y opposèrent absolument. Et surtout, par l'affaire qui restera célèbre du Toast d'Alger de novembre 1890. On est un peu étonné qu'un homme de son expérience et de son habileté se soit fourré dans ce guêpier. Depuis 15 ans, le Parlement et le gouvernement de la Troisième République, dominé par le Parti radical, menaient une politique de plus en plus anti-religieuse. Réduction des crédits alloués aux clergés et aux cultes, entraves mises à l'action des religieux, avanies de toutes sortes, écoles sans Dieu, l'action des laïcs à l'armée, les chrétiens de France et également le Vatican. Sur le plan politique, la réaction des catholiques était inopérante. Comme ils étaient à la fois catholiques et monarchistes, certains crurent à Rome qu'il était urgent de dissocier catholicisme et royalisme. Le ralliement à la République désarmerait les anticléricaux. C'est le sens du rapport que Mgr Ferrata, secrétaire des affaires ecclésiastiques extraordinaires, présenta à sa demande au pape Léon XIII. Dès lors, celui-ci chercha l'évêque qui interviendrait publiquement dans ce sens. Plusieurs pressentis se récusèrent, le cardinal Lavigerie se sacrifia. C'était le 12 novembre 1890. L'escadre de Méditerranée mouillait en rade d'Alger. À l'absence du gouverneur général, il incombait à l'archevêque, premier personnage de la colonie, de recevoir dans sa résidence de Sainte-Eugène l'état-major de l'escadre. Lavigerie offrit donc un banquet auquel furent également invités les autorités militaires, civiles et universitaires. Ce fut l'occasion du toast qui devait rester célèbre. Après avoir évoqué le spectacle de personnalités diverses réunies autour d'une même table, symbole d'une union tant souhaitable entre les fils d'une même patrie, il ajouta. L'union, en présence de ce passé qui saigne encore, de l'avenir qui menace toujours, est en ce moment, en effet, notre besoin suprême. L'union est aussi, laissez-moi vous le dire, le premier vœu de l'Église et de ses pasteurs à tous les degrés de la hiérarchie. Sans doute, elle nous demande de renoncer ni au souvenir des gloires du passé, ni au sentiment de fidélité et de reconnaissance qui honore tous les hommes. Mais quand la volonté d'un peuple s'est nettement affirmée, que la forme d'un gouvernement n'a rien en soi de contraire, comme le proclamait dernièrement Léon XIII, aux principes qui seuls peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées. Lorsqu'il faut, pour arracher enfin son pays aux abîmes qui le menacent, l'adhésion sans arrière-pensée à cette forme de gouvernement, le moment vient de déclarer enfin l'épreuve faite et pour mettre un terme à nos divisions, de sacrifier tout ce que la conscience et l'honneur permettent, ordonnent à chacun de nous de sacrifier pour le salut de la patrie. C'est ce que j'enseigne autour de moi. C'est ce que je souhaite de voir enseigner en France par tout notre clergé. Et en parlant ainsi, je suis certain de n'être point désavoué par aucune voix autorisée. En dehors de cette résignation, de cette acceptation patriotique, rien n'est possible en effet, ni pour conserver l'ordre et la paix, ni pour sauver le monde du péril social, ni pour sauver le culte même dont nous sommes les ministres. Ce serait folie que d'espérer soutenir les colonnes d'un édifice sans entrer dans l'édifice lui-même, ne serait-ce que pour empêcher ceux qui voudraient tout détruire d'accomplir leur œuvre. Folie surtout de l'assiéger du dehors, comme le font encore quelques-uns, malgré des hontes récentes, donnant aux ennemis qui nous observent le spectacle de nos ambitions, de nos haines, et jetant dans le cœur de la France un découragement précurseur des dernières catastrophes. Après la conclusion, tout le monde se rassit. Aucun applaudissement. Stupeur générale. Silence. Quelqu'un s'adressa au commandant de l'escadre. « Amiral, ne répondez-vous pas au cardinal ?» L'amiral Dupéré, catholique et royaliste, se leva et prononça ces seuls mots. « Je bois à son éminence le cardinal et au clergé de l'Algérie. » Puis les convives se retirèrent, salués à leur départ par la Marseillaise, joués par la fanfare du petit séminaire, ce qui était doublement choquant. Ce toast était une erreur majeure, parce qu'il plaçait l'Église sur un terrain qui n'était pas le sien, celui des convictions et des choix politiques, parce qu'il n'eut aucun effet positif et ne pouvait pas en avoir. La gauche radicale était fondamentalement voltairienne et anticléricale, parce qu'elle souleva une désapprobation à peu près unanime qui affecta profondément un homme fatigué, vieilli, à la santé chancelante et qui était obligé de se rendre compte qu'il avait présumé de sa légendaire autorité. En outre, ses finances, celles de ses œuvres, en pâtirent. La plupart de ses bienfaiteurs étaient d'ardents royalistes, et leur générosité eut du mal et mit du temps à se remettre de ce coup. Ainsi, la vie ardente et glorieuse de la Vigerie s'achevait dans l'épreuve, comme il arrive pour tant d'êtres humains. « Je me suis tué », disait-il. Il ne quittait plus l'Algérie, se partageant entre Alger et Biskra, où le climat était meilleur. Il mourut à Alger, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1892. Il avait 67 ans. On lui fit de magnifiques funérailles et on l'enterra dans un superbe cénotaphe dans la cathédrale de Carthage, dont on l'a retiré en 1960, au moment de la décolonisation, pour le placer dans la crypte de la maison généralice des Pères Blancs à Rome. Après sa mort, les sociétés qu'il avait fondées se développèrent sans cesse. En 1892, il y avait 235 pères et frères missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. 50 ans plus tard, on comptait 2000 pères blancs. Au cours de la même période, les Sœurs Blanches, qu'il avait été si près de dissoudre, et que Mère Marie Salomé et Mère Marie Claver, Marie-Louise de l'Épervier, avaient héroïquement sauvées, étaient passées de 96 à 1500. La Vigerie était un personnage tout à fait hors du commun. Si le mot ne devait pas résonner étrangement à vos oreilles, je dirais que c'était un monstre, monstre sacré bien sûr, au sens étymologique du terme, un spécimen exceptionnel, unique. Il a des qualités énormes d'activité, d'audace, d'imagination, il fourmille d'idées nouvelles et il se met en devoir de les réaliser en prenant les mesures nécessaires. C'est un politique, au sens profond du terme, et de grande classe. Il donne à son action un horizon très large. Il voit grand et haut, et c'est un entraîneur d'hommes, d'une extraordinaire autorité personnelle, d'une puissance rare de séduction. Il aime parler aux foules, et le fait avec une éloquence naturelle. Toujours forte, du reste, sans piano, le moins du monde. Toujours fort, toujours en verbe éclatant. ces relations se situent spontanément au niveau le plus élevé. Il est de plein pied avec le pape, au Napoléon III, au Léopold II, au Gambetta, au Jules Grévy. C'est là son monde. Combien auront dit de lui, cet évêque est un Richelieu. Évidemment, il a ses faiblesses, comme tout le monde. Autoritaire d'instinct, il est coléreux et despotique. Grand par le cœur et l'esprit, il a le goût de la majesté, du faste, et même de la pompe et du clinquant. Visant le succès, il est impatient et manque parfois la vertu suprême de l'apôtre, qui est la constance dans l'épreuve. Il lui arrive d'avoir des caprices de diva, de star, comme cette fois où, arrivant en retard à la gare de Rome pour prendre le train de Civitavecchia, il fait chauffer une locomotive et accrocher un wagon pour lui tout seul. Il lui en coûte 500 francs or. Mais enfin, quel homme! Et puis et surtout, il a donné la première impulsion à de merveilleuses missions. Et à ces sociétés de missionnaires admirables, les Pères Blancs, les Sœurs Blanches. Voilà pourquoi, dans ce siècle de mission qu'est le 19e, si riche en travailleurs héroïques sur le terrain et en martyrs, la figure missionnaire la plus représentative et la plus célèbre, c'est celle de ce bâillonnet magnifique, cactus de pourpre et d'or, le cardinal Charles Lavigerie.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, le 21e épisode, la victoire du laïcisme.